Donc nous reprenons nos échanges et nos entretiens avec la dernière session de cet après-midi à laquelle introduisait fort bien la dernière intervention, l'intervention d'Olivier Beau sur justement les divers pouvoirs au sein des sociétés contemporaines et vers leur interaction et les besoins de séparation. Nous allons donc nous intéresser maintenant à un thème qui a été en partie abordé aussi déjà hier, sur les réseaux, les lobbies et les conflits d'intérêts. Comme je l'ai dit hier rapidement, la politique consiste à, répartir des pouvoirs et satisfaire des intérêts. Cette satisfaction des intérêts peut être plus ou moins satisfaisante selon les partis qui sont en cause. Vous avez entendu ce qu'on a dit notamment sur les régimes politiques mixtes. Dans les sociétés complexes comme les nôtres, les intérêts multiples correspondant à des fonctions sociales et des opérations extrêmement différentes sont en jeu, avec à la fois des besoins de synergie et en même temps des possibilités de conflits, y compris des conflits qui vont jusqu'à, le délit. Donc c'est sur ce sujet que nous allons débattre maintenant avec Catherine Labrusse, Martin Hirsch, Philippe Houillon et Mustapha Mekki, deux juristes et deux hommes de politique et d'administration, pour Martin Hirsch et pour Philippe Houillon, que vous connaissez sûrement comme rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau. C'est d'ailleurs, je dois le dire à titre personnel, la raison pour laquelle j'ai pensé tout de suite à l'inviter, parce que j'avais été fort impressionné par sa contribution à cette commission d'enquête et ce qu'il y avait dit et manifesté. Donc je vais tout de suite passer la parole à Catherine Labrusse. Elle est professeure émérite de droit privé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la totalité de sa carrière. C'est une carrière de juriste. Elle a été membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Et elle est co-directeur de la collection Thémis aux presses universitaires de France, qui signifie que la plupart des juristes ont dû passer sous son examen attentif et exigeant. Elle est spécialiste de droit civil, droit international privé, de droit et éthique des sciences de la vie. Ses derniers écrits de bioéthique, textes réunis et présentés par Muriel Femme-Magnan en quadrigeseste et en livre de poche témoignent de cet intérêt. Mais elle a développé de manière plus récente un intérêt pour les conflits d'intérêts. Et je lui donne la parole pour commencer, le premier cadrage de notre échange.
Alors je vous remercie infiniment. Je suis très, très intimidée et très inquiète d'avoir intervenir après mes collègues constitutionnalistes, alors que je ne suis nullement constitutionnaliste, mais privatiste, civiliste plus précisément, et qu'il m'est arrivé effectivement de rencontrer dans des activités universitaires ou non universitaires, surtout des hypothèses de conflits d'intérêts dont je voyais qu'ils ne trouvaient pas de solution très satisfaisante. Ça, c'est l'expérience concrète. Mais surtout, j'ai rencontré un peu par hasard la question des conflits d'intérêts à l'occasion d'études sur le droit des contrats. Donc, ça n'est pas des pouvoirs de l'État que je vais parler, des pouvoirs du législateur, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, pouvoir entre guillemets, etc. Mais des pouvoirs que nous détenons tous les uns et les autres, chacun dans notre domaine, dans notre fonction, compte tenu aussi du désir de pouvoir que nous avons plus ou moins étendu, mais souvent un peu vorace de la part d'un certain nombre de citoyens, qu'il faut maintenir dans les limites de leur pouvoir. Alors, j'ai rencontré cela dans des domaines très techniques du droit des contrats en particulier, toutes les fois que se posait la question de savoir si une personne, compte tenu de sa fonction principale, de son statut, dirons-nous essentiellement de son statut professionnel, pouvait ou non passer tel ou tel contrat dans telle ou telle circonstance. On pourrait donner de multiples exemples. il y a aussi bien... Le problème se pose un peu dans tous les domaines. Par exemple, les dirigeants d'une société commerciale peuvent-ils, en tant que personne physique, passer un contrat avec la société qu'ils dirigent, c'est-à-dire en qualité de mandataire? Oui, ils le peuvent, mais ces contrats sont autorisés, comme on dit, ils sont soumis à un contrôle, ils n'obéissent pas à la pleine liberté des conventions. Bon. Il y a bien d'autres domaines. Si on prend les professions libérales, un médecin, par exemple, peut-il passer un contrat, enfin, ou du moins des accords ou des conventions avec une entreprise pharmaceutique qui va rémunérer les prescriptions fréquentes qu'il fera des médicaments qu'il va ainsi délivrer, qui seront ainsi délivrés et ainsi participer au marché pharmaceutique, alors que ce médicament n'est pas forcément nécessaire aux patients. Donc, vous voyez, des hypothèses de conflits, cumuls d'intérêts, questions qui se présentent très fréquemment dans l'ensemble de la vie civile, toutes les fois qu'une personne se trouve occupée plusieurs places ou que plusieurs fonctions ou plusieurs situations juridiques se trouvent placées sur la tête d'une même personne. Et la question est évidemment de savoir comment le droit, si le droit va intervenir, comment le droit intervient, quelles sont ses exigences d'un point de vue idéal et quelles sont ses limites d'un point de vue pratique de gestion aujourd'hui de ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts paraissent une question, c'est une grande question très sur la place publique qui est bien connue, qui commence à être bien connue en France, en tout cas largement débattue. C'est une question qui apparemment est nouvelle sur le plan médiatique, mais qui en fait est très ancienne et très connue depuis fort longtemps, en tout cas si on examine la multitude des situations juridiques dans lesquelles la question peut se poser. Par exemple, aussi bien en procédure, deux magistrats mariés entre eux ne peuvent pas participer à la même instance juridictionnelle, un avocat ne peut pas en principe, sous réserve de l'accord des parties, plaider au profit de deux parties dont les intérêts sont radicalement opposés. Enfin bref, il y a une multitude de situations, dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer parce que l'énumération serait beaucoup trop longue, qui montre que le cumul, enfin la possibilité de cumul peut mettre en danger les limites qui sont imposées à une fonction principale compte tenu de sa déontologie, de sa mission, de son rôle dans la société. Alors, mon point de vue était que, mon postulat plutôt, qui mériterait encore certains d'être vérifiés, serait que le règlement, la prise en considération des situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il faut qu'il faut définir d'ailleurs, au-delà de cette parcellisation des hypothèses, et qu'un certain nombre de rapports récents se sont attachés à circonscrire, et que ce règlement, cette manière de régler, qui est un peu devant nous d'ailleurs, pour laquelle nous devons inventer, à partir de ce qui est déjà connu, participe de l'organisation de la séparation des pouvoirs dans la société civile. Et qu'après tout, c'est dans la société civile, dans les rapports entre les uns et les autres, les personnes privées que nous sommes, les personnes privées, les fonctionnaires, mais qui sont aussi qui sont des citoyens comme les autres, compte tenu de la position que nous occupons, ou des positions que nous occupons, car on en occupe toujours plusieurs en même temps. On peut être à la fois professeur de droit, marié, vous voyez, donc on peut avoir des tas de situations juridiques qui sont différentes, chacune dans leur domaine, mais il y a quelquefois des hypothèses où ça se court-circuite et où il faut choisir quel est le statut qui va l'emporter sur l'autre au regard des risques que ce statut peut encourir ou que l'acte envisagé peut faire subir à la mission ou à la fonction principale ou à l'intérêt protégé. Alors, mon idée était qu'au-delà des questions morales, de morale civique, on peut dire, les conflits d'intérêts, il faut les régler parce que c'est une exigence de loyauté, c'est une exigence d'impartialité, c'est une vertu, comme de la séparation des pouvoirs, mais que la séparation des pouvoirs était en soi une mission du droit et que pour le bon ordre de la société, à partir de la considération que le droit, en général, le droit objectif, est moins peut-être d'attribuer des droits permettant d'être revendiqués que d'organiser effectivement les rapports sociaux en fonction des pouvoirs, donc d'attribuer des pouvoirs, d'en reconnaître la légitimité, mais aussi les bornes. Car, comme l'a écrit un académicien, Jacques de Bourbon-Busset, si je me souviens bien, il disait qu'un fleuve, pour s'écouler, même avec fureur, doit connaître des rives. En l'absence de rives, il tombe dans des marécages. Et je crois que le droit, c'est un peu cela, c'est construire les rives du fleuve de la société pour qu'il avance, pour qu'elle avance, sans tomber dans les marécages. Alors pour cela, il faut fixer des bornes, aux bornes des pouvoirs que chacun, ce qui n'est pas la chose la plus plaisante à première vue, parce que on aime mieux se voir reconnaître des droits que de se voir reconnaître des limites à nos pouvoirs. Alors, il faut recenser, effectivement, les limites au pouvoir peuvent résulter d'abord de l'objet de chaque pouvoir, qui a la vertu de ne pas tout confondre, qu'on permette de ne pas tout confondre. Un commerçant n'est pas une profession libérale, un notaire n'est pas un banquier. On pourrait multiplier les cas de ce genre où à chaque métier, à chaque fonction correspond un intitulé, un objet qui forme les limites en même temps parce qu'on ne va pas pouvoir en sortir. Alors le problème n'est pas effectivement d'avoir une conception trop étroite ou trop restrictive de ces fonctions, mais de voir dans quelle mesure la fonction ou l'intérêt protégé, surtout s'il s'agit d'un intérêt collectif ou d'un intérêt général, qui est notamment pris en charge par des fonctionnaires publics, ne risque pas d'être tenu en échec ou altéré, voire mis de côté en raison d'un autre intérêt auquel la personne participe et que ce conflit d'intérêts permette d'établir une hiérarchie. La question est de savoir comment est-ce qu'on va gérer cette situation et comment le droit va s'en sortir. Alors, on dit beaucoup qu'il s'agit là de questions déontologiques, mais si on regarde, bien sûr, aussi, ce sont des questions déontologiques, certes, mais on va parler de la déontologie parce qu'il s'agit de réguler selon des normes approximatives, pas très claires, pas très nettes. Mais si je regarde le droit et le droit civil, le droit privé en général, eh bien, je suis frappée par le fait que ce n'est pas le droit qui manque. Et je vous en donnerai quelques exemples. Il y a beaucoup de droits sur ce que nous appelons aujourd'hui les conflits d'intérêts qui permettent d'éviter l'indifférenciation des rôles, voire pire, la confusion des rôles, voire même l'abus d'un rôle au-delà, c'est-à-dire l'exercice d'un pouvoir au-delà de sa légitimité. Donc c'est pas le droit qui manque. Ceci étant, si l'on y réfléchit, on se rend bien compte, ne serait-ce qu'à la lecture des travaux qui ont déjà été consacrés à cette question, que l'élaboration de nouvelles normes, je ne sais pas si elles sont nécessaires, je ne me prononce pas là-dessus pour l'instant, se heurte néanmoins dans notre société aujourd'hui à des obstacles assez lourds. Si bien que ce sont les deux points que je voudrais illustrer. D'une part, il y a du droit, mais d'autre part, ce droit est en danger, il ne résiste pas, il subit les assauts de forces qui rendent difficile une maîtrise juridique de ses pouvoirs. Or, je crois que dans une société état de droit, c'est d'abord au droit de dire quelles sont les bornes de la légitimité en distinguant la licéité et l'illicéité. Alors, il y a du droit. Alors d'abord, le droit est là pour préserver la séparation des pouvoirs entre des personnes qui sont liées entre elles par des contrats. Je pourrais vous citer une multitude d'exemples qui se sont trouvés dans la jurisprudence des tribunaux, de décisions tout à fait banales, mais qui correspondent à des situations concrètes qui, elles, ne sont jamais banales parce que toute situation individuelle a une importance. J'ai l'exemple d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a donné raison à la Cour d'appel, qui a confirmé un arrêt de la Cour d'appel qui avait considéré comme illicite le licenciement de la secrétaire d'un commissionnaire automobile, laquelle avait eu le tort d'acheter une voiture pour son compte personnel qui n'était pas celle de la marque du concessionnaire. Vous voyez, donc, d'un côté, la vie privée de cette femme qui avait la liberté d'acheter la voiture de son choix, cette liberté ne pouvant pas, en définitive, être légitimement restreinte par l'employeur en raison de l'intérêt qu'il attachait à son entreprise et à la marque qu'il représentait. Donc, borne mise au pouvoir de l'employeur. On pourrait citer de nombreux exemples, essentiellement dans le droit du travail, où effectivement la question de la protection de la vie privée de l'individu doit être préservée par rapport aux ordres ou à l'organisation du travail. Alors chaque fois, ce sont des questions casuistiques, mais on voit bien qu'il s'agit de tracer, prendre la mesure, comme disait M. Rousseau hier, prendre la mesure de ce qu'il faut préserver dans la liberté de l'un en raison du pouvoir que détient l'autre sur la personne même de son subordonné. Le plus souvent, on pourrait d'ailleurs prendre aussi l'exemple des clauses de non-concurrence. La Cour de cassation donné avec des définitions successives et des définitions assez strictes de la légitimité des clauses de non-concurrence qui sont dans les contrats et qui pourraient aliéner la liberté de la personne qui quitte une entreprise ou une profession et qui se trouverait assujettie par une exigence de non-concurrence qui serait imposée par l'ancien employeur, par exemple. Donc, il y a des conditions très strictes, elles ne sont pas totalement illicites, mais il y a des conditions très strictes, ce qui permet effectivement d'éviter que l'un occupe toute la place qui irait au-delà des bornes que représente l'altérité, l'autre personne. Alors, c'est souvent la confusion des pouvoirs est souvent sanctionnée, elle est prévue par la loi, par des lois, elle est sanctionnée le plus souvent d'ailleurs toutes les fois qu'il y a des risques qu'une situation objective de conflit d'intérêts soit relevée. Même qu'il n'y a pas lésion véritable d'un intérêt dominant, prédominant, on voit que le droit prend en considération dans de multiples cas le risque du conflit d'intérêts, le risque de la lésion d'un intérêt. Alors on voit ça dans très nombreux domaines, par exemple les rapports de famille entre deux personnes ou deux ou plusieurs personnes vont altérer la capacité de témoigner devant la justice au profit d'un des membres de sa famille ou à l'encontre d'un des membres de sa famille. Donc le risque, c'est en effet un témoignage partial qui risquerait d'altérer le bon cours de la justice et la valeur de ce témoignage. C'est surtout pour toutes les personnes qui sont en charge de l'intérêt d'autrui, prenez le tuteur, le curateur, les mandataires, les gérants d'affaires, pour eux, nombre d'actes sont soit interdits, soit contrôlés par le juge, prévenu à première vue, par exemple une personne qui a des intérêts dans une industrie, par exemple, ne pourra pas participer à l'appréciation de la qualité sanitaire des produits produits par en tant qu'expert, alors que c'est un expert scientifiquement indiscutable, mais à raison des intérêts qu'il a dans d'autres domaines, il pourra être récusé. Bon, technique de la récusation est aujourd'hui un problème très important en ce qui concerne l'expertise. Tout le monde le sait bien. Ouais, d'accord. Bon, on voit cela aussi dans le domaine de la fonction publique, prise en charge de l'intérêt général, pas de l'intérêt général cette fois-ci par les fonctionnaires, un intérêt général spécialisé, bien sûr, déterminé, mais tout de même qui n'est pas un intérêt privé, qui n'est pas un intérêt particulier. Or, là aussi, il y a de multiples interdits ou conditions qui sont mises pour que le fonctionnaire ne risque pas d'être en mesure de remettre en question l'intérêt public en raison des activités qu'il pourrait avoir par ailleurs au service d'intérêts privés ou de ses intérêts purement personnels. Alors, je ne sais pas s'il est opportun de démultiplier encore les conditions dans lesquelles il y a conflit d'intérêts, intervention du droit dans la loi. Ça, c'est une autre question. La question serait d'abord de définir les situations dans lesquelles les conflits d'intérêts méritent d'être, j'allais dire, juridicisés, c'est-à-dire pris en compte dans des règles de droit avec des sanctions assorties. Ceci étant, si on se pose tant de questions, c'est que le traitement du conflit d'intérêts, qui devrait aller de soi, après tout, séparer chacun agir dans son domaine, tout son domaine, mais rien que son domaine, ne pas empiéter sur les pouvoirs d'autrui, ne pas se servir de pouvoir pour bénéficier d'autre chose, au contraire, tout ça paraît du bon sens, de la séparation des pouvoirs dans la société civile, et que tout cela, malgré cette évidence, se heurte néanmoins à des obstacles dont je voudrais relever quelques-uns. Certains obstacles sont d'ordre...
Oui ? Ça vous dérange, on verra les obstacles peut-être après.
Bon, alors si vous voulez... D'accord. Il y a des obstacles, je dis simplement, je ne le développe pas sur le fond, il y a des obstacles qui sont d'ordre général, qui sont des forces extérieures au droit, au système juridique, aux instruments juridiques dont nous disposons et qui influent sur l'exercice, y compris des fonctions juridiques, de l'extérieur. Ces forces, sont assez grandes pour rendre souvent très difficile la résistance à l'indistinction des pouvoirs, à l'indifférenciation des pouvoirs. Et il y a des limites qui sont internes au système juridique lui-même, des limites au droit lui-même qui ne peut pas tout faire, et qui est obligé de composer avec ses propres limites. Alors, je pourrais vous en donner des exemples, ce qui touche surtout le problème de la sanction en cas de conflit d'intérêts qui est considéré comme illicite. La sanction est effectivement très difficile à dégager, et c'est un des points d'ailleurs dans le rapport Sauvé qui mérite, à mon avis, réflexion. Alors, il me semble que simplement pour contrôler, que si les pour terminer rapidement, que si les juristes ont un certain intérêt, comme je l'ai, à ce qu'on appelle la fonction anthropologique du droit, c'est-à-dire une construction de la société où à la fois la liberté est préservée, mais non pas une liberté sauvage, mais une liberté ordonnée, il me semble qu'il y a... la mesure à établir pour fixer ces dispositions, ces règles, ces programmatiques pour l'instant. Il me semble qu'il faut distinguer deux terrains qui ne sont pas les mêmes. D'une part, il y a une mesure à établir entre des fonctions qui ont des caractères permanents ou du moins durables, suffisamment durables, et qui peuvent être, savoir si elles peuvent être cumulables dans le présent ou successives dans le temps sur la tête d'un même individu, d'une même personne. Ça, c'est une question extrêmement importante qui me paraît distincte de la seconde question. La seconde question, ce serait de prendre la mesure des incompatibilités entre une fonction ou un rôle dans la société, déterminé ou non par un statut, et un type d'acte particulier qui peut être conjoncturel, qui peut être occasionnel, par exemple être appelé comme témoin dans un procès ou passer un contrat de vente ou épouser quelqu'un qui, dont les fonctions seront incompatibles avec celles que l'époux exerce de son côté, par exemple le préfet ou la préfète d'ailleurs, enfin disons, le conjoint du préfet ne peut pas exercer une profession commerciale dans le département de son conjoint. Bref, il y a des situations qui sont d'ordre occasionnel et je voudrais montrer que, et dans ces cas-là, il faut rechercher quelles sont les incompatibilités. Où est-ce qu'il y a des incompatibilités qui établissent des interdictions spéciales, ponctuelles, qui ne portent pas atteinte à la liberté en général, et qui sont pour lesquelles il y a le plus souvent, il y a déjà un certain nombre de dispositions, mais pour lesquelles il faudrait, je pense, pousser plus loin l'analyse, compte tenu de l'évolution de la société et de la manière dont les conflits d'intérêts se posent aujourd'hui, notamment entre le secteur privé et le secteur public, compte tenu d'une indistinction entre le privé et le public et qui conduit à un certain nombre de confusions et en tout cas qui perturbe beaucoup les traditions dans lesquelles les juristes ont l'habitude de raisonner. Je vous remercie.
Ouais, merci. Alors, j'essayais d'arrêter Catherine Labrusse parce que il y avait un moment où ça me facilitait la transition par rapport à Martin Hirsch et Philippe Houillon, parce que j'avais envie de leur demander, ce que je vais leur demander d'ailleurs, c'est s'il y a autant de dispositions juridiques déjà existantes, comment se fait-il que le problème la question des confusions d'intérêts se pose autant. Donc je pose la parole là-dessus à Martin Hirsch, je le présente rapidement, même s'il a, comme on dit d'habitude, il n'y a pas besoin d'être présenté. Il est en 63, École normale supérieure, ENA, secrétaire général adjoint du Conseil d'État, fonction de cabinet auprès de Bernard Kouchner, président de l'Union centrale des communautés d'Emmaüs de 1995 à 2002, directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de 1999 à 2005, président d'Emmaüs France 2002-2007, et puis, bien sûr, il a été haut commissaire aux solidarités actives. Et il va nous expliquer, mais j'espère... pas aussi longuement que dans son livre, pour en finir, comment on peut en finir avec les conflits d'intérêts. Et puis ensuite, Philippe Houillon interviendra sur le même thème, peut-être avec quelques différences.
Merci beaucoup. Avant de répondre à la question que vous avez posée, je vais essayer, dans ce propos que je vais essayer de faire le plus concis possible, de développer trois idées. Un, d'essayer de montrer comment... l'actualité montre que les conflits d'intérêts ne sont pas des anecdotes de cas isolés de telle ou telle personne déviante, mais bien un esprit de système. Que essayer de trouver dans quoi les conflits d'intérêts peuvent puiser leurs sources, comment on peut expliquer qu'ils prospèrent tellement. Et troisièmement, d'essayer de vous convaincre qu'il y a des solutions pour les prévenir. Parce qu'effectivement, si les conflits d'intérêts, dans certains domaines très limités, ont leur définition, dans le domaine plus général de l'action publique ou de l'action parlementaire, il n'y a pas de définition juridique de ce qu'est le conflit d'intérêts, d'où l'intérêt des, si je puis dire, des textes actuels. Alors, conflit d'intérêts, c'est une notion à la fois hyper simple et extrêmement complexe. Hyper simple parce que c'est à la portée du premier venu, du premier professeur venu, de comprendre qu'il ne siège pas dans le jury quand son fils est candidat à un concours, par exemple. Voilà. Ça arrive de temps en temps, et c'est sanctionné par le Conseil d'État. Alors, il y en a quelques-uns qui ne le comprennent pas tout à fait, en disant « mais non, je serai plus sévère avec lui ». Mais, donc, c'est à la portée, normalement, aussi du premier parlementaire venu, que de dire qu'on ne va pas défendre un amendement émanant d'une entreprise qui peut vous financer par ailleurs. Donc il me semble que la notion de conflit d'intérêts est assez simple à comprendre quand on prend ce genre de cas de figure et qu'on devrait, en prenant cela, pouvoir clairement définir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Elle est cependant extrêmement complexe parce que je défie quiconque dans cette salle ou à la tribune de ne jamais avoir été en situation de conflit d'intérêts. Nous avons tous été en situation de conflit d'intérêts. Dès lors qu'on prend une définition assez générale d'un conflit d'intérêts dans lequel il y a une convergence ou une divergence entre les décisions que vous êtes conduits à prendre au nom d'un intérêt qui vous dépasse, d'un intérêt général, d'un intérêt public, pour parler de ceux qui sont investis de ces prérogatives-là, et votre propre intérêt personnel. On se retrouve toujours en situation, si vous êtes en situation d'être haut fonctionnaire et de mener un programme, vous pouvez espérer que si ce programme marche, vous serez promu. Donc il y a un moment où il y a un lien d'intérêt entre ce que vous allez faire au nom de l'intérêt général et ce que vous pouvez éventuellement faire pour vous-même. D'où, me semble-t-il, on parlait tout à l'heure avec Philippe Houillon, il me reprochait dans le livre de ne pas avoir parlé de certains pouvoirs d'influence, d'où, me semble-t-il, la notion, si on veut déjà progresser, d'essayer de mettre fin et de tordre le cou aux conflits d'intérêts dans lesquels il y a un intérêt financier direct pour l'intéressé et sa famille aux décisions, aux mesures, aux avis qu'il prend au nom d'une charge ou d'une responsabilité publique. Ça cerne déjà le problème, mais ça me paraît être le problème le plus aigu, parce que c'est celui qui se rapproche le plus possible des délits les mieux constitués, que sont les délits de prise illégale d'intérêt ou les délits de corruption. Alors quand je dis que, pour moi, il me semble que la question des conflits d'intérêt n'est pas le fait d'épingler tel ou tel à l'occasion de tel ou tel fait divers, mais que ces faits divers sont plutôt le reflet d'un esprit de système, on peut le voir dans l'actualité. Si je prends l'actualité récente, il y a aujourd'hui un procès sur ce qui s'est passé lors de la tempête Xynthia, par exemple. Qu'est-ce qui est en cause, dont on ne sait pas comment la justice tranchera, mais est en cause les situations dans lesquelles des élus peuvent délivrer des permis de conduire à des membres de leur famille en zone inondable, qui posent quand même des problèmes qui sont d'une lourdeur et d'une gravité importante. Les missions d'information parlementaire sont en train de terminer leur travail sur l'affaire du Mediator. Mediator, c'est un concentré de conflits d'intérêts très important, dans lequel, d'ailleurs, à ce stade, on ne sait pas si ce sont ces conflits d'intérêts qui sont à l'origine des morts ou si c'est autre chose, on ne peut pas le dire aujourd'hui, mais il y a, j'allais dire, une présomption de problème quand les conflits d'intérêts sont si importants. Et ce qui est intéressant ou inquiétant dans ces conflits d'intérêts, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de savoir si tel ou tel expert a été, au moment où il a donné un avis sur le Mediator, en même temps payé par la firme qui mettait sur le marché le Mediator, ce qui est le cas, ce qui est en soi choquant. Mais ce n'est pas simplement cela, c'est comment est-ce qu'un laboratoire pharmaceutique et plus largement l'industrie pharmaceutique peut mettre en situation de conflit d'intérêts général et institutionnel tout un secteur à partir du moment où elle peut commencer déjà à payer la formation des médecins. Donc les médecins que vous allez voir ont eu toute leur formation médicale continue financée par l'industrie pharmaceutique. Quand les sociétés savantes, telles sociétés de cardiologie, etc., qui se présentent avec un statut de société savante, est en réalité financée par l'industrie pharmaceutique, quand des hommes politiques de droite et de gauche sont financés par ce laboratoire pour les conseils qu'ils peuvent leur donner, et quand l'information ou la nature de l'information qui est délivrée elle-même aux médecins est souvent financée par l'industrie pharmaceutique. Et donc, il se trouve qu'à partir du moment où l'intrication de ces intérêts privés avec intérêts privés et l'intérêt public est aussi large, j'allais dire que le fait de payer tel ou tel expert devient presque anecdotique, ça devient la cerise sur le gâteau. Et donc, si on veut, quand on y viendra dans la troisième partie, résoudre cela, cela veut dire qu'effectivement, c'est tout l'ensemble de ces intérêts qu'il faut désintriquer et pas simplement aller sanctionner le professeur Bidule ou l'agent machin sous prétexte qu'il a été effectivement, à tort d'ailleurs, la personnification d'un conflit d'intérêts plus général. On pourrait continuer les exemples de cela. Je pense, pour ma part, que ce qui s'est passé avec les mouvements tunisiens, etc., et la difficulté n'est pas liée à telle ou telle personne qui est au mauvais moment, en fonction, etc., que plus globalement, effectivement, une grande partie des élites françaises, qu'elles soient politiques, journalistiques, universitaires d'ailleurs, ont été souvent invitées à l'œil par le régime de Ben Ali, par exemple, et que ça rend plus difficile de pouvoir avoir un œil critique ou distant sur ce qui se passe dans un régime quand vous avez profité, même un peu, de ces largesses. Donc, d'où ma conviction, qui quelquefois heurte certains, qu'il y a derrière la question du conflit d'intérêts, effectivement, une non-séparation des pouvoirs, une confusion des pouvoirs, comme le disait Catherine Labruche, une intrication des pouvoirs, et je dis même parfois une subordination d'un pouvoir public à des pouvoirs qui sont privés. Alors, à partir du moment où cette notion devrait être aussi simple, d'avoir la boussole qui permet de dire ce que je donnais mon premier exemple de jury, comment ça se fait que les conflits d'intérêts prospèrent et se retrouvent aussi nombreux? Alors c'est là que c'est intéressant. On le voit d'ailleurs quand on dénonce les conflits d'intérêts et les difficultés qu'il y a à se prononcer là-dessus. Je dis souvent, sur les conflits d'intérêts, tant qu'on est abstrait, tout le monde s'en fiche. Dès qu'on est concret, tout le monde se fâche. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui explique la présence des conflits d'intérêts aussi importante? La première raison, à mes yeux, c'est qu'en fait, souvent, cette proximité des pouvoirs et cette intrication des pouvoirs, elle peut être utile pour l'action publique que vous allez conduire. Et donc, il y a dans la proximité, quelquefois, quelque chose qui peut être bien. Moi, j'en ai eu l'exemple quand j'étais responsable de la politique de jeunesse. J'ai convaincu une grande entreprise de pétrole, qui s'appelle Total, de financer 50 millions d'euros les fonds d'expérimentation jeunesse. Pourquoi est-ce que j'ai réussi? C'est parce que je connaissais bien le patron de Total. Qui avait proposé de me rémunérer pour autre chose que j'avais refusé. Donc ça rendait. Donc on a plutôt intérêt à être pour faire fonctionner, avancer des causes qui peuvent être des causes publiques et d'intérêt général, effectivement, à pouvoir être en proximité avec un certain nombre de personnes quand on est du secteur public, du secteur privé, et réciproquement pour l'intérêt général que l'on sert. Donc il y a un premier, j'allais dire, bonne raison de se retrouver dans des situations de proximité d'intérêt qui peuvent facilement dériver en conflit d'intérêts. La deuxième raison, c'est que, paradoxal d'ailleurs, c'est que beaucoup dans la formation française, et notamment la formation française des hauts fonctionnaires, il y a l'idée qu'elle est tellement bonne et tellement, on peut le dire dans ce lieu, tellement inscrite dans une histoire de principes républicains extrêmement forts, qu'elle met à l'abri de léser l'intérêt public par les conflits d'intérêts. Et moi, j'ai souvent croisé des gens qui disaient « Mais oui, peut-être que j'étais invité une semaine chez un tel ou payé par un tel, etc. Mais au moment où je vais prendre ma décision, ceci ne m'influence pas. » Et de bonne foi, il y a une sorte de conflit d'intérêts à l'insu de son plein gré, quoi, de bonne foi. Donc ça fait quand même de la présomption, j'allais dire, qu'on parle beaucoup de présomption d'innocence aujourd'hui, là il y a une présomption, j'allais dire, de partialité, mais il y a beaucoup de gens qui s'offusquent qu'on puisse dire qu'on ne pourrait pas faire la part des choses, ce qui vous explique que leur cerveau est très bien coupé en deux. Ce qui pose un problème, parce que du coup, soit ils n'ont pas conscience qu'il y a des passerelles entre les deux cerveaux, soit sinon c'est une forme d'ingratitude extraordinaire. Moi je l'ai vu, je raconte dans mon livre la situation dans laquelle un jour je reçois une invitation par le patron d'une grande compagnie d'eau qui s'appelle Jean-Marie Messier, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui m'invite à aller à l'opéra à Aix, j'adore l'opéra, très bien, dans son avion personnel, avec nuit sur place, l'avion à disposition pour rentrer, etc. Je reçois ça, j'avais aucune envie d'aller à l'opéra invité, mais quand même ça m'intrigue. Donc je viens au bureau avec, et puis je fais le tour des bureaux et je dis, est-ce qu'on est en train de traiter une histoire d'eau en ce moment? Et puis il y a une personne de mon équipe qui dit, oui, on est au moment où on doit obliger les distributeurs d'eau à mettre le taux de polluants sur les factures individuelles. Je dis, ça se passe bien? Dit, avec beaucoup, ça se passe bien, sauf avec Vivendi. Je comprends le problème, quoi. Voilà. Donc, si j'avais accepté l'invitation, il était difficile ensuite de dire votre dossier est dans le bureau 2A du ministère, je ne peux pas vous recevoir individuellement, etc. Et donc, on se retrouve soit à être complètement d'une impolitesse et d'une ingratitude absolue, soit de se retrouver en situation à être sous influence. Et puis, il y a également une explication, me semble-t-il, au conflit d'intérêts, dans le fait que il y a aujourd'hui une intrication un peu plus forte entre les intérêts publics et les intérêts privés, qui fait que les intérêts privés, pour pouvoir être satisfaits, ont besoin de pouvoir influencer le pouvoir de normes, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, parce que ça a un impact tellement important sur leur activité que ça crée une pression extrêmement forte. On peut trouver d'autres raisons, mais tout ça pour expliquer que le conflit d'intérêts, ces situations de conflit d'intérêts assez générales, ne naissent pas dans un esprit simplement de... Ce n'est pas des gens qui sont... des formants, des voleurs, etc., mais dans un contexte dans lequel l'action publique et l'action privée sont amenées à être tellement confluentes qu'à un moment, elles sont en conflit. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de remettre de l'ordre là-dedans, ce qui me paraît tout à fait fondamental très rapidement, mais il me semble que c'est une architecture cohérente. Ça n'est pas une simple mesure, ce n'est pas simplement la transparence ou la sanction, ou etc. Ça ne peut fonctionner que s'il y a une architecture cohérente. Cette architecture cohérente, comme tous les nombres sacrés, elle repose sur 7 principes. Le premier, c'est de savoir définir les conflits d'intérêts, parce que souvent, l'absence de définition qu'il y a dans les textes des conflits d'intérêts fait qu'on dise, conflit d'intérêts, ça ne peut pas concerner quand c'est mon père, quand c'est ma mère, quand c'est ma sœur, quand c'est ma femme, quand c'est tel truc pas semi-privé et pas vraiment privé, quand c'est telle ou telle chose, etc. Donc il y a besoin d'une définition à laquelle chacun ait le rapport officiel, le dernier, à part les rapports parlementaires, mais le rapport public de Jean-Marc Sauvé, qui était là hier, est un rapport qui propose une définition du conflit d'intérêts. Il faut absolument en avoir une. La deuxième chose, c'est qu'il faut, pour que les conflits d'intérêts ne naissent pas trop, il faut effectivement définir des incompatibilités. Moi, je me suis référé aux incohérences d'incompatibilité qu'on peut trouver dans les statuts parlementaires, qui font qu'un député n'a pas le droit d'être prof de droit à la fac pendant qu'il est député, alors qu'il peut être... c'est jugé par le Conseil constitutionnel, c'est interdit. Professeur associé. Oui, parce qu'il y a le statut de professeur associé, il ne peut pas. Professeur associé, il peut être professeur, il ne peut pas être professeur associé, mais il peut être soit avocat, soit président de la holding d'une entreprise qui vit que...
Je suis avocat.
Oui, avocat, oui. Et il peut être président de la holding contenant des entreprises qui ne vivent que de commandes de l'État. Donc il y a des incohérences, me semble-t-il, entre ce qui est interdit et qui pourrait être autorisé, je ne vois pas en quoi ça lèse quelque chose qui est un professeur associé, et des choses qui peuvent mettre en situation de conflit d'intérêts, alors même que la Constitution a prévu qu'un parlementaire ne pouvait pas diriger une entreprise qui vivait de commandes de l'État, mais n'a pas prévu le cas dans lequel il dirige la holding qui elle-même possède l'entreprise. Donc revoir le régime des incompatibilités. Troisième chose, la situation de transparence. La situation de transparence qui est à la fois la transparence vis-à-vis des tiers, mais la transparence vis-à-vis de soi-même. Moi, j'ai rencontré souvent les cas, je faisais remplir des déclarations d'intérêt quand je m'occupais d'une autorité de sécurité sanitaire. Et donc, à regarder les rubriques, les experts disaient « Ah, je ne savais pas que ». Je ne savais pas qu'être membre rémunéré du conseil scientifique d'une entreprise de boissons gazeuses pouvait me mettre en situation de conflit d'intérêt parce que... Oui, là aussi, parce qu'on ne fait pas le lien, quelquefois, tellement on est bien constitué dans sa tête à pouvoir séparer l'un et l'autre entre ces différents. Donc, il faut la transparence avec les mécanismes de déclaration. Quatrième chose, il faut forcément une régulation. Effectivement, s'il n'y a personne pour contrôler que les règles sont bien appliquées, elles ne le seront jamais. Donc, il faut une instance de régulation qui soit capable de pouvoir trancher les cas limites, parce qu'il y a beaucoup de cas limites, il y a beaucoup de cas où on hésite. Moi, je me suis retrouvé dans des situations dans lesquelles, par exemple, j'étais acheteur de médicaments pour les hôpitaux de Paris, J'avais un oncle qui était responsable d'un laboratoire pharmaceutique, par ailleurs public, de médicaments. Dans le doute, j'ai demandé à ne jamais signer des marchés dans ce secteur-là pour ne pas me retrouver à avoir en bas du même contrat le nom de mon oncle et mon propre nom, alors que nous étions, pourrions discuter en réunion de famille. Je ne suis pas son héritier, il n'y avait pas, etc. Dans le cas où ça pose un problème, il vaut mieux aller pouvoir avoir une autorité de régulation qui vous dit ben, c'est possible comme ci, c'est possible comme ça, ou c'est impossible comme ça, et ne pas être laissé à sa propre conscience ou à sa propre inconscience. Il faut, sixième point, cinquième, alors on va voir que...
C'est qui suit.
Voilà, tout à fait. Voilà. Point suivant, je vais vous en faire que six alors. Une évaluation, parce que j'arrive pas à relire celui-là. Une évaluation régulière des règles. Parce que le contexte change. Vous voyez ce que j'évoquais sur les questions de santé, la manière dont fonctionne le système de santé aujourd'hui n'est pas comme il fonctionnait il y a 30 ans et comme il fonctionnera dans 30 ans. Donc les règles, les principes normalement peuvent être assez intangibles, ils sont assez universels, mais leur traduction doit pouvoir évoluer pour tenir compte de la manière dont évoluent les sphères publiques et privées. Et puis, la dernière chose, c'est que pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, il ne suffit pas d'avoir des bonnes procédures, que ce soit de transparence, d'interdiction, etc. Il faut lever la pression pour qu'il y ait le moins d'intérêt possible à ce qu'il y ait de conflit d'intérêts. Je vous donnais l'exemple de l'industrie pharmaceutique. On peut faire les plus grandes procédures pour dire qu'il faut déclarer jusqu'à son huitième descendant l'ensemble ou ascendant l'ensemble des liens qu'on peut avoir à l'industrie pharmaceutique. Mais si effectivement l'industrie pharmaceutique a toujours cette capacité de pouvoir, depuis la formation médicale jusqu'à l'information en passant par les congrès et les sociétés savantes, avoir une influence sur le système, cette influence sera elle-même une situation de conflit d'intérêts qui se traduira par de la surprescription et qui explique d'ailleurs en partie que notre pays soit champion du monde de consommation des médicaments. Je ne pense pas que ce soit une variable indépendante de cette situation-là. Donc ne pas oublier que les sources des conflits d'intérêts viennent aussi dans des choses beaucoup plus larges que la situation individuelle de tel ou tel qu'on aime épingler. Je vous remercie de votre attention.
Alors, Philippe Houillon est député du Val-d'Oise, maire de Pontoise. Il a été rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau. Il est aussi, comme il l'a dit, avocat à Pontoise depuis 1973. Il a été bâtonnier de Londres et depuis 1993, il est député du Val-d'Oise. Il est de 2005 à 2007 est président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale. Donc voilà, à vous.
Bien, merci. J'ai compris, en ce qui me concerne, qu'il y avait un premier conflit entre l'éventuel intérêt de nos propos et la montre de M. Michaud, et je suis certain que c'est cette dernière qui va l'emporter. Donc, je vais essayer d'être bref. Je veux d'abord vous dire, il a été passionnant, je ne l'ai pas trouvé long du tout, mais bon. Je veux d'abord vous dire que les conflits d'intérêts, ça fait partie de la vie. C'est la vie quotidienne. Que ce soit la vie personnelle, que ce soit la vie professionnelle ou que ce soit la vie sociale. On est en permanence confrontés les uns et les autres à des choix plus ou moins difficiles, mais on est confrontés à des choix en permanence dans ces différents secteurs. Bien. Et ces choix, on les assume. On les assume sans que, globalement, toute personnalité confondue, cela pose des problèmes. Vous avez dit deux fois que j'étais avocat, donc je vais ne pas le nier. Et pour vous dire que dans cette profession, on a l'habitude des conflits d'intérêts. On a l'habitude de les gérer au quotidien et on a surtout l'habitude de la déontologie. Et tout ça, globalement, je me répète, ne pose pas de difficultés, sauf si on veut aborder le sujet de manière intégriste. Je crois que ce n'est pas la bonne méthode que de le faire. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on a en France un corpus législatif juridique qui est très avancé. Ne croyons pas, car ce serait une erreur de penser ça, ne croyons pas que nous sommes en retard. Tout ce qui est de la malhonnêteté, c'est-à-dire qui est susceptible d'être réprimé par la loi pénale, est prévu en France, que ce soit les règles sur les incompatibilités, que ce soit les textes de droit pénal sur la prise illégale d'intérêts, on est les seuls, sur ce dernier point, dans les pays de l'OCDE, à avoir un texte aussi dur que celui sur la prise illégale d'intérêts. Et avec, par ailleurs, une jurisprudence qui l'interprète très largement, sachant que la prise illégale d'intérêts concerne les intérêts aussi bien matériels, mais aussi moraux, les intérêts directs, mais aussi indirects. Bref, je ne vais pas être plus long là-dessus, mais on a un corpus juridique qui est largement satisfaisant en matière de répression, c'est-à-dire de tout ce qui est malhonnête. Bien. Troisième point, c'est pourquoi est-ce qu'on est sur ce débat ? On est sur ce débat parce qu'on est dans un processus qu'on connaît bien, nous autres législateurs, qui est le suivant, que je vais dire de manière un peu caricaturale, mais néanmoins. C'est qu'on a des faits divers. Martin Hirsch dit « c'est un système ». Je conteste totalement cette affirmation. On y reviendra le cas échéant tout à l'heure. On est sur un certain nombre de faits divers, les affaires Wörth, les affaires ne citons pas, et puis par ailleurs sur un certain nombre de personnalités qui s'inscrivent au barreau de Paris pour devenir avocat alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant, et que certains, semble-t-il, s'interrogent sur leur qualité de juriste. Bien, on est sur ça. À partir du moment où on est sur ça, on veut répondre. Parce que, par ailleurs, le politique a une mauvaise image, que majoritairement, il y a un soupçon, majoritairement, on pense qu'il est exposé à la corruption, etc. Donc, on veut répondre. Et on utilise un peu une loi, comme un tract, on va durcir les règles, de façon à plaire. C'est ce qui se passe sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, mais les autres ne sont pas d'actualité aujourd'hui. Bien, on fait comme ça, avec deux choses en général, le processus est connu. La première, c'est qu'on donne une ou deux mesures médiatiques, et puis la deuxième, c'est qu'on s'aperçoit que bien souvent, la loi que finalement on va voter, ou les décisions qu'on va prendre, sont en deçà des annonces qui ont été faites. C'est-à-dire qu'elles vont beaucoup moins loin que ce qu'on a dit. Et que le tout est fait dans la rapidité, alors que c'est des questions, c'est vrai, sérieuses et importantes. Et puis, je me répète, quelques mesures médiatiques. Par exemple, le fait de déclarer pour les parlementaires tout avantage supérieur à 150 euros. Moi, ça fait, Martin Hirsch citait beaucoup d'exemples concernant, ça fait bientôt 19 ans que je suis député, ça fait 10 ans que je suis maire, on m'a jamais fait de cadeau, si ce n'est tous les ans, le consul d'Algérie à Pontoise qui m'envoie 3 bouteilles de boulaouane que je ne lui retourne pas pour garder de bonnes relations, évidemment, avec le consul. Mais par contre, quand j'étais, par exemple, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, j'ai déjeuné de nombreuses fois dans l'année avec le garde des Sceaux. Il m'a pas fait payer les repas. Bon, je lui ai pas demandé un certificat pour dire combien est-ce que ça coûtait. Est-ce que j'y ai perdu de mon indépendance dans cette affaire ? La réponse est évidemment non. Est-ce qu'il va falloir adopter réellement, car c'est ce qui est prévu, j'y viens tout de suite après, réellement ce type de disposition, dorénavant, applicable à tout le monde ? Est-ce que quand vous allez, quand un parlementaire, mais ça ne concerne pas que les parlementaires, les fonctionnaires, un certain nombre de personnels publics, va être invité dans un restaurant, est-ce qu'il va falloir qu'il demande l'addition ? Parce que si jamais il est invité 2 ou 3 fois dans l'année par la même personne, ça peut-être éventuellement aller au-delà de 150 euros. Donc c'est des mesures qui... Voilà. Donc c'est ce processus. Troisièmement, ou quatrièmement, je ne sais plus, on est en train de prendre, là maintenant, au moment où on parle, c'est l'actualité, effectivement, 3 séries de dispositions. D'abord, il y a un projet de loi que j'ai ici, on n'a pas le temps de le décliner, un projet de loi qui va concerner, qui va être soumis au Parlement incessamment, qui va être adopté incessamment au Conseil des ministres, donc nous allons en débattre, les entretiens ici sont un peu en avance, on va en débattre très prochainement, sur, qui s'appelle, je l'ai là sous les yeux, relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. Bien, on a cette première série de textes. D'autre part, l'Assemblée nationale a adopté un code de déontologie, a désigné un déontologue, a désigné un déontologue, ça vient d'être fait d'ailleurs le 15 juin, donc on est vraiment dans l'actualité totale, et a édicté un certain nombre de règles, et le Sénat aussi a fait la même chose, ou plus exactement, un groupe de travail donné 40 propositions qui vont plus loin. J'ai d'ailleurs observé, Martin Hirsch, que vous trouviez que ce que l'Assemblée nationale avait dit était en deçà de ce que vous souhaitiez, mais que vous trouviez que le Sénat, par contre, avait donné de bonnes propositions. Je suis un peu inquiet, moi, de ce genre de commentaires, parce que dit le Sénat ? Il dit pour beaucoup la même chose que l'Assemblée nationale, il est arrivé un peu après l'Assemblée nationale, mais il dit, par exemple, on va donner à chaque parlementaire le droit de demander au déontologue de regarder les intérêts de son voisin. C'est-à-dire qu'on entre là dans un système de délation. Et ça, c'est l'intégrisme. Et ça, il faut le refuser. C'est une des propositions, je n'ai pas le temps de sortir les textes, mais je peux le faire très volontiers, je les ai ici. C'est une des propositions du Sénat. Et quand on trouve que le Sénat, c'est mieux que l'Assemblée, moi, je suis inquiet, enfin, pas les institutions, les conclusions des groupes de travail, je suis un peu inquiet parce que moi, je ne peux pas souscrire à ce genre de choses, à la délation. C'est aller bien au-delà de ce qui est nécessaire. Alors, est-ce qu'il faut rien faire ? Ma réponse est non. Il ne faut pas rien faire car on s'aperçoit qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de choses en matière de répression, mais peu de choses en matière de déontologie, c'est-à-dire de code de bonne conduite, de règles de bonne conduite, et que si moi, professionnellement, je suis bien habitué à tout cela, peut-être que d'autres, venant d'autres horizons professionnels, n'ont pas suffisamment l'habitude, n'ont pas eu l'enseignement de la déontologie pour qu'il soit effectivement nécessaire, à côté des mesures répressives, eh bien, d'avoir des conseils, des comportements. Et je pense que ce qu'a fait l'Assemblée nationale, je ne dis pas ça parce que c'est ma maison plus que le Sénat ne l'est, mais ce qu'a fait l'Assemblée nationale me paraît équilibré. Le tronc commun de ces trois textes, c'est la déclaration d'intérêts. On va déclarer ses intérêts, pas seulement les siens, ceux de ses ascendants, de ses descendants et de son conjoint. Ce qui fait quand même, ce qui pourra faire éventuellement débat lorsque ça viendra en discussion. Il y a un déontologue avec comme épine dorsale de tout ça le dialogue, c'est-à-dire la possibilité, certes pour le déontologue de regarder, mais d'essayer de faire en sorte de modifier les comportements quand il y a des comportements qui sont répréhensibles. Donc ça me paraît aller correctement là où il faut aller, donc c'est ça qu'il faut faire, de la déontologie sans doute. Et puis j'en viens pour en terminer, pardon d'être beaucoup trop bref sur des sujets qui mériteraient des développements plus importants, j'en viens pour terminer à d'autres débats dont on parle, et puis d'autres débats ou d'autres questions dont on ne parle pas. Ce dont on parle, c'est voilà, est-ce qu'on peut, c'est ce qu'il y a dans l'excellent ouvrage de Martin Hirsch, c'est pas normal qu'on ait une profession en même temps, et notamment la profession d'avocat, en même temps qu'on est parlementaire. Bon. Député, c'est bien payé, enfin, c'est 5 500 € par mois. On parle pas non plus de salaire de PDG du CAC 40, hein. 5 500 € par mois, l'indemnité parlementaire. Bon. Donc c'est suffisamment payé et donc il n'y a pas besoin d'avoir une activité à côté. Mais je trouve que c'est... Pardon. Je peux vous sortir la phrase où c'est marqué, j'ai ici les documents, vous dites qu'il n'y a pas besoin d'argent supplémentaire. Vous dites bien ça à un moment donné. Bon, je peux regarder, mais je le ferai pendant que vous me répondrez, je vous lirai la phrase. Donc, j'ai lu cette phrase que je vais peut-être retrouver, j'espère. Enfin, bon. Mais c'est pas une question d'argent. Arrêtons de parler de c'est pas une question d'argent. C'est une question d'indépendance. Savez-vous quelle est la moyenne de vie d'un député? Quand on est fonctionnaire, qu'on retrouve son emploi si on n'est pas élu, il n'y a pas de problème. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait tant de fonctionnaires dans les assemblées élues? Eh bien pour ça. Quand on n'est pas fonctionnaire, moi je dis deux choses. La première, je viens de le dire, c'est que le mandat parlementaire, enfin la durée de vie d'un mandat, durée de vie moyenne d'un député, pas du député mais de son mandat, c'est 7 ans. 7 ans, en tout. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un qui est élu, comme ce fut mon cas, député autour de 39-40 ans, Cinq ans après, il est battu. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors ça renvoie à des questions dont on n'a pas le temps de parler maintenant, qui est celle du statut de l'élu. Mais tout ça, c'est pour se faire plaisir. Le statut de l'élu ne fera jamais que quelqu'un qui est battu à 45 ans, par exemple, eh bien on va lui redonner un emploi, une clientèle libérale. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on peut parler du statut de l'élu, mais à un moment donné, il faut être concret. Et puis deuxièmement, moi je trouve qu'avoir conservé un métier, ça m'a rendu infiniment plus indépendant. Si je ne suis que député, je vais dépendre totalement de mon parti politique. Je vais tout faire pour obtenir à nouveau l'investiture la fois d'après et pour plaire. C'est comme ça que ça va se passer. Si j'ai à côté, comme ce fut mon cas, comme c'est mon cas toujours d'ailleurs, si j'ai un métier à côté, on peut parler sur le temps consacré, etc. Il peut y avoir un débat là-dessus, j'en suis d'accord. Mais si j'ai un métier à côté, je suis infiniment plus indépendant. Parce que je n'attends pas après mon indemnité parlementaire pour vivre. Et quand je vois que le Sénat aussi veut limiter la rémunération qu'on peut tirer d'une autre activité à la moitié de l'indemnité parlementaire, c'est encore quelque chose qui ressort de la doctrine intégriste. Je crois qu'il ne faut pas de chiffres. Hein. On est beaucoup plus indépendant. En tout cas, c'est ma conception. Et c'est ce que je dis à mes électeurs qui pour l'instant me réalise. Je suis infiniment plus indépendant comme ça parce que je ne suis pas à la remorque de mon parti. J'ai l'esprit infiniment plus libre en faisant cela. L'autre chose, c'est le cumul des mandats dont on parle aussi. Le cumul des mandats, là, il y a un sujet. C'est une sorte de conflit d'intérêts moral par le temps consacré à l'un et à l'autre, etc. Bon. J'aborde pas la question, j'en termine, Monsieur Michaud, sur ce dont on ne parle pas. Je le disais effectivement en aparté à Martin Hirsch, tout à l'heure, qui vous l'a redit en intervenant, c'est qu'on a aussi des gens qui prêtent serment, dans le cadre d'associations ou de réseaux d'influence, d'obéir à certaines lois et à ceux qui sont chargés de les exécuter. Ça, on n'en parle jamais. On n'en parle pas. Et Dieu sait que ça a une influence. Et je suis surpris, alors qu'on va chercher à déclarer 150 euros de repas ou que sais-je, que ça, qui est un vrai sujet, on n'en parle pas. De même manière, est-ce qu'il ne va pas y avoir de conflit d'intérêts sur les élus territoriaux qui vont être mis en place à partir de 2014 ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème quand le matin on va défendre son département et l'après-midi on va aller siéger à la région où il y a bon, etc., etc. Il y a beaucoup de sujets aussi importants qui sont pas du domaine de l'argent, quoique, mais qui ne sont pas suffisamment abordés. Voilà, je vais en terminer. Je suis d'accord pour compléter les textes de droit nombreux qui existent déjà par des codes de déontologie. Mais je ne suis pas d'accord pour de l'intégrisme à ce sujet, parce que on ira dans le mur. Et dites-vous bien que quand on légifère à la faveur d'un événement, il y aura toujours un autre événement après, une autre émotion dans 6 mois ou dans 1 an, que justement la loi n'aura pas prévu et qui nécessitera l'application du même processus, et que c'est pas comme ça qu'on fait du bon travail et que c'est pas comme ça qu'on restaure la confiance entre la population et les politiques, confiance à laquelle on aspire tous d'un côté et de l'autre. Et il n'y a pas de système. Je ne peux pas supporter qu'on puisse avoir sur moi un regard comme sur quelqu'un qui doit être soupçonné, qui est corrompu, parce que c'est pas le cas. Donc à partir du moment où c'est pas le cas, si vraiment on entre dans ce registre, moi je fais autre chose, et je le fais d'autant plus librement que j'ai une profession et que j'ai à plaire à personne ni à demander rien à personne.
Alors, eh bien, je vais demander à Mustapha Mekki maintenant de nous dire ce qu'il fait de tout ça. C'est le plus jeune d'entre nous ici. Il est né, enfin, de cette table. Il est né en 1973. Il est professeur à l'université Paris 13, agrégé des facultés de droit et docteur. spécialiste de droit privé, de théorie du droit et de sociologie juridique, entre autres aussi spécialiste des lobbies et des réseaux. Voilà, à vous.
Merci, Monsieur le Président. Alors, je voulais juste poser déjà une première question à Monsieur Michaud, c'était de savoir si ce triptyque qu'il a choisi était une manière de rendre honneur au général de Gaulle, qui adorait justement les distinctions ou les trilogies, puisque aujourd'hui, étant le 18 juin, il était normal de rappeler la mémoire de ce grand monsieur, et notamment, alors peut-être, est-ce volontaire ou pas ?
C'est bien possible, j'entendais ce matin une écolière prononcer l'appel du 18 juin, et je remarquais à quel point c'était une excellente rhétorique.
Oui. Bon, alors, plus sérieusement, le point que je vais essayer d'aborder, eh bien, c'est celui du thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire réseau, lobby et conflit d'intérêts. Trois notions que je vais m'efforcer de définir dans un premier temps afin de voir quels sont les moyens, puisque c'est essentiellement la question que l'on va aborder aujourd'hui, hein, quels sont les moyens permettant de lutter, de prévenir, puisque c'est la notion essentielle, de prévenir les conflits d'intérêts. Alors, on l'a déjà dit, hein, il y a de nombreux travaux qui ont été publiés, celui de la Commission Sauvé, celui du Sénat, et puis bien entendu le déontologue et le code de déontologie. Et je partage le sentiment de Martin Hirsch sur la qualité des deux rapports. Je préfère celui du Sénat à celui de l'Assemblée nationale, mais peut-être pour d'autres raisons sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder. En tout cas, je les évoquerai assez rapidement. Alors, revenons sur les trois termes de cette équation, réseau, lobby, conflit d'intérêts. Qu'est-ce qu'un réseau ? Alors, de manière assez neutre, généralement un réseau, c'est un ensemble d'éléments liés entre eux, il y a une sorte d'interaction, ils sont enchevêtrés les uns aux autres, donc on arrive à avoir une petite idée, ne serait-ce que matérielle, de ce que peut être un réseau. De manière plus suspecte maintenant, le réseau c'est aussi une organisation clandestine avec des membres qui obéissent à des mêmes directives. On sent tout de suite justement l'ambiguïté du terme réseau. Alors dans l'esprit des organisateurs, me semble-t-il, et en cohérence avec ces journées du jeu de paume, je crois que le terme de réseau renvoie à deux idées principales. La première au sens technique, le réseau c'est un jeu d'influence, un jeu de relations, et ce jeu est plus ou moins transparent. Alors sur le plan systémique, et il me semble que c'est l'aspect le plus important, l'idée de réseau c'est un moyen de tempérer une conception traditionnellement hiérarchique, verticale, transcendante du système politique, juridique, économique, social. Parler de réseau, c'est prendre conscience que la société politique et la société civile, eh bien, reposent sur d'autres principes dont les maîtres mots sont les suivants: l'immanence, la proximité, la réflexivité, probablement terme évoqué par M. Rosanvallon, la dialectique au sens de dialogue, ou encore le pluralisme. Pour avoir une idée plus claire de ce que peut évoquer la notion de réseau, eh bien, c'est d'abord la place de l'État. L'État devient un acteur social parmi d'autres. Et à l'intérieur même de l'État, vous avez ce qu'on appelle une fragmentation de l'intérêt général. L'intérêt général, aujourd'hui, c'est une somme d'intérêts publics, et des intérêts publics qui peuvent être en conflit, notamment encouragés par la décentralisation et éventuellement même par l'essor des autorités administratives indépendantes. Donc il va falloir concilier des intérêts publics entre eux. La notion d'intérêt général n'est pas une notion unitaire. Également la démocratie est moins représentative et de plus en plus participative. Il n'y a pas une substitution, mais on superpose à la démocratie classique représentative une nouvelle forme de démocratie de proximité. L'intérêt général lui-même, l'intérêt général est plus immanent, et très souvent même on définit l'intérêt général comme le résultat d'un arbitrage équitable entre les intérêts privés et les intérêts publics. Alors, en sciences politiques, le terme de réseau, eh bien, est une synthèse finalement de ce que j'ai évoqué avant, c'est-à-dire qu'il se situe à mi-chemin entre le système pluraliste, très libéral du système américain, et un système néocorporatiste qui est celui qui caractérise certains pays, certains systèmes européens. Le réseau, c'est l'idée qu'il y a des acteurs qui négocient, qui échangent, qui marchandent et qui sont liés les uns aux autres. Alors, c'est dans ce contexte qu'on comprend mieux finalement la place déterminante qu'on accorde et qu'il faut accorder, me semble-t-il, au lobby. Et c'est le deuxième terme de l'équation. Le terme de lobby, du moins en France, est un terme péjoratif. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, la plupart du temps, on essaie d'éviter cette rhétorique du lobby pour utiliser d'autres termes, relations publiques, ou encore, dans les différents rapports, que ce soit auprès des institutions européennes ou auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, on a préféré utiliser le terme de représentant d'intérêt beaucoup plus neutre. Et je pense que c'est de cette manière qu'il faut entendre, en tout cas aujourd'hui, le terme de lobby ou l'activité de lobbying, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui sont menées par des groupes d'intérêt en vue d'influencer l'élaboration, l'application, l'interprétation des normes juridiques et également des décisions publiques. Et dans une société dite globalisée et dans une démocratie plus participative, comme je l'ai évoqué, ces groupes ont un rôle fondamental à jouer auprès des acteurs publics. Et ce qui pose alors avec acuité la question du conflit d'intérêts, qui est le troisième et dernier élément de cette équation. Alors la notion de conflit d'intérêts est le nerf de la guerre. Et effectivement, l'avantage en tout cas des rapports Sauvé et du rapport du Sénat, c'est d'avoir tenté de proposer une définition, qu'on peut toujours critiquer, mais de ce qu'est la notion de conflit d'intérêts. Celle-ci va bien au-delà du politique, puisqu'on la rencontre, comme Mme Labrousse-Rioux l'a évoqué, dans de nombreux domaines du droit privé, mais elle a un sens bien particulier lorsqu'il s'agit de s'adresser à l'exercice, en tout cas, des pouvoirs publics. Comment profiter de l'expertise et de l'éclairage des groupes d'intérêt qu'il ne faut pas nier, comment renforcer la légitimité et l'efficacité des décisions publiques en luttant contre les conflits d'intérêts qui sont la source d'une défiance et d'une véritable méfiance des citoyens. Alors selon le sage conseil du philosophe, celui-ci dit, et notamment en particulier Kegosi, il faut débuter par définir pour ne pas finir par buter. Et c'est donc la raison pour laquelle l'essentiel du travail qui a été fait par la Commission Sauvé et par le Sénat, et dans une moindre mesure, de manière plus incidente, par l'Assemblée nationale, a été de définir ce qu'il faut entendre par conflit d'intérêts. On comprend, la solution n'est pas du tout d'éliminer les lobbies, c'est impossible. Pas plus que l'on peut éliminer les conflits d'intérêts, ça a été évoqué plusieurs fois. Mais ce qu'il faut, avant tout, c'est encadrer ces notions, c'est trouver une formule permettant de combiner de manière équilibrée l'action des acteurs publics limitée par et fondée sur l'intérêt général et la nécessité de s'ouvrir sur un monde complexe et des membres de la société civile qui veulent être plus actifs dans la définition des grandes orientations politiques. Le remède qui a été choisi par les différents groupes de travail que j'ai évoqués précédemment et des textes en vigueur qui existent, il faut l'avouer, en tout cas, surtout pour les groupes de travail, ça a été de prévenir les conflits d'intérêts. Alors que, en tout cas on le soutient, la plupart du temps, on s'intéressait uniquement à la manière de guérir les conflits d'intérêts, notamment par l'intervention des sanctions pénales. Alors il faut également souligner que beaucoup observent que la question des conflits d'intérêts n'est pas une question purement juridique, mais serait également une question de culture. Il ne faut pas simplement réguler, il faut également informer, éduquer. Mais pour ma part, je pense qu'on peut passer par le droit pour éduquer et informer, et que le droit n'est pas là simplement pour imposer des comportements. Alors, dans tous les travaux, la question essentielle, le principe qui revient le plus souvent, c'est celui de la prévention, et c'est le point que je voudrais justement traiter ici. Cette prévention suppose d'agir sur les causes des conflits d'intérêts. Et ces causes, même si cela peut paraître un peu caricatural, et même si les catégories, vous allez voir, sont liées les unes aux autres, elles reposent, me semble-t-il, sur deux catégories, deux types de causes contre lesquelles il faut lutter. D'abord, des causes exogènes. Il va falloir essayer d'encadrer l'influence des lobbies, des groupes d'intérêt. Et puis également, essayer d'agir sur les causes endogènes, en agissant à l'intérieur même, justement, des différentes assemblées, par exemple, et en essayant, justement, de lutter contre la notion, au sens strict, de conflit d'intérêt. Il faut donc, dans un premier temps, tenter, me semble-t-il, de lutter contre les causes exogènes. Je serai bref, il ne s'agit surtout pas de nier ici le rôle et la place des groupes d'intérêt. Je l'ai dit, l'État est souvent un arbitre et moins un décideur. La loi est de moins en moins, enfin en tout cas bénéficie de moins en moins d'une autorité naturelle et devient de plus en plus rationnelle au sens où le législateur doit rendre des comptes. Il y a également un phénomène de globalisation qui fait que les règles juridiques sont déterritorialisées, où ce n'est plus véritablement l'État qui décide sur des questions fondamentales, mais plutôt des multinationales. Il y a un droit de plus en plus complexe, parce que le droit doit gérer des questions qui ne se rapportent pas uniquement aux questions juridiques, comme Mme Labrousse-Rioux l'a évoqué, mais qui touchent à la science, à la religion, à la morale, à l'éthique. Et donc, dans ces conditions, la force des groupes d'intérêt est une force d'appui indispensable. Les lobbies ont un rôle fondamental à jouer. Mais la question, c'est comment faire en sorte que cette influence reste loyale et équitable? Comment faire en sorte que cette force vive que sont les groupes d'intérêt ne devienne pas une force subversive? Alors, des tentatives d'encadrement existent, hein. Je ne vais pas tous énumérer, mais on a des registres d'inscription des lobbies auprès de l'Assemblée nationale ou auprès du Sénat, comme auprès de la Commission européenne ou du Parlement européen, régime obligatoire ou régime facultatif, selon les cas. On a également des codes de déontologie qui ont été mis en place, auxquels les groupes d'intérêt doivent adhérer s'ils veulent obtenir un badge et accéder aux lieux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, il y a des choses. Simplement, ça reste décevant, d'abord parce que la liste des représentants d'intérêt est incomplète. On ne discute pas assez, notamment, de la situation des avocats, très souvent laissés de côté au nom du principe du secret professionnel. Les sanctions sont négligeables. Et puis, certains ne sont pas encadrés, notamment l'influence des lobbies, par exemple, sur les élus locaux. Eh bien, il n'y a aucune mesure, aucun code de déontologie permettant de l'encadrer. De la même façon, auprès de la Cour de justice des communautés européennes, les lobbies peuvent exercer leur pouvoir et leur influence sans aucun encadrement. Et puis, la question des conflits va bien au-delà du pouvoir politique. Actuellement, c'est essentiellement les experts qui posent problème, avec hier l'affaire du sang contaminé, aujourd'hui l'affaire Mediator, et demain peut-être la question de l'électromagnétisme, vous savez, les portables qui seraient éventuellement cancérogènes. Donc, on a un certain nombre de carences, et les projets que j'ai évoqués tout à l'heure, projet Sauvé et le projet du Sénat, le rapport du Sénat, eh bien, proposent d'améliorer la situation. Notamment, la commission Sauvé prévoit d'instaurer un régime facultatif d'adhésion auprès de toutes les administrations pour les lobbies. Également, pour ce qui est du Sénat, durcir les prohibitions pour que les élus ne puissent pas participer à des colloques ou à ce qu'on appelle des clubs parlementaires, où il pourrait y avoir des conflits d'intérêts, ou encore encadre davantage la fonction des assistants parlementaires et interdit que ceux-ci puissent combiner plusieurs activités. Bon, tout ça, bien entendu, je sais que c'est un point qui ne sera pas partagé par tout le monde, mais en tout cas, ce sont des améliorations à mon sens et qui permettraient de rendre, en tout cas, dans l'apparence, le conflit d'intérêts avec des lobbies eh bien, beaucoup moins fréquent. Deuxième moyen de lutter contre les conflits d'intérêts, c'est de lutter contre les causes endogènes, et c'est l'objet principal des différents rapports que j'ai évoqués. Et pour ce faire, encore une fois, il ne sert à rien d'interdire, comme vous l'avez effectivement évoqué, monsieur le député, tout à l'heure, mais la mesure principale, et c'est ce qu'évoquait monsieur Martin Hirsch, c'est de rendre tout cela plus transparent. Alors, à une condition, c'est que la transparence ne doit pas être une fin en soi. La transparence est un moyen de contrôler le processus décisionnel et les décisions qui en résultent. Et l'apparence doit permettre de mettre en œuvre des principes qu'on appelle les principes de justice procédurale. Par la transparence, on pourra faire en sorte que la décision soit impartiale. Par la transparence, on pourra s'assurer que le processus décisionnel a été loyal. Par la transparence, on pourra rassurer sur la probité de ceux qui sont intervenus dans les prises de décision. Alors, sur le plan procédural également, il faut moraliser le comportement. Et là, je partage l'avis de monsieur le député. Le code de déontologie est une très bonne chose. Ce n'est pas le seul instrument qu'il faut utiliser, mais c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, il est encouragé par les différents rapports, Sénat, la commission Sauvé, et bien entendu, l'Assemblée nationale avec le déontologue que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, on pourrait effectivement critiquer dans le détail ces différents codes de déontologie, mais ils sont un premier pas permettant justement, en tout cas, de leur faire jouer un rôle pédagogique afin que les acteurs publics sachent quelles sont les limites à ne pas franchir. Alors, la transparence passe aussi, selon la commission Sauvé et le rapport du Sénat, par une déclaration plus large des intérêts des acteurs publics et une intensification des cas d'incompatibilité. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Malheureusement, il n'est pas certain que tout cela soit repris par la loi. Pour assurer cette régulation des conflits d'intérêts, tous à peu près proposent une autorité de déontologie, la commission Sauvé et le rapport du Sénat. Pour ce qui est de l'Assemblée nationale, c'est un déontologue qui a été préféré, mais la fonction qui lui est attribuée est à peu près la même. Donc ces premiers pas sont une bonne chose, mais le chemin reste encore assez long à parcourir. J'évoquerai quelques critiques, par exemple, je trouve que les principes qui figurent dans le code de déontologie de l'Assemblée nationale sont des principes qui sont beaucoup trop généraux, très difficiles à mettre en œuvre, peu opératoires, et qui poseront des difficultés d'interprétation. Les sanctions qui sont prévues par le Sénat et l'Assemblée nationale, pour que tout le monde ait son compte, eh bien, sont des sanctions, me semble-t-il, beaucoup trop légères, et on a encore une impression de personnes qui continueront à laver leur linge en famille. En tout cas, c'est le sentiment qui peut se dégager des différentes procédures qui ont été instaurées. Quant à la déclaration d'intérêt, on refuse que celle-ci fasse l'objet d'une publication externe, que les citoyens soient au courant des intérêts déclarés, et on invoque assez fréquemment le respect de la vie privée. Alors je ne vois pas très bien ce que la vie privée vient faire là, dans la mesure où les intérêts moraux n'ont pas à être déclarés dans la plupart des rapports qui ont été publiés, et donc dès lors qu'il s'agit d'intérêts financiers, le patrimoine, en tout cas pour juriste que je suis, le patrimoine n'est pas un élément de la vie privée et devrait pouvoir être publié, surtout dans ces conditions. Alors je pourrais multiplier les critiques, puisque notamment le magistrat conseil, qui est le rôle qu'on veut lui attribuer dans l'autorité de régulation, est insuffisant, et celui-ci est simplement un confident, mais n'a pas de véritable pouvoir. Alors, maintenant, la balle est dans le camp du législateur. Une loi est indispensable, semble-t-il, parce qu'il faut que cela soit rendu public, pour que les citoyens soient au courant des mesures qui ont été prises. Et puis, il faut, par la loi, garantir une unité. Il faut que tous ceux qui ont une charge publique soient traités de la même façon, d'où l'intérêt, justement, de passer par le canal de la loi. Et c'est à ce prix, me semble-t-il, qu'on pourra sortir de cette société de défiance qui a été évoquée hier pour intégrer une société de confiance. Et tout cela, pour finir, confirme que la notion d'intérêt général a bien évolué. L'intérêt général n'est plus le monopole exprimé d'une seule voix par un législateur transcendant. L'intérêt général est de plus en plus souvent, et il faut en avoir conscience, le résultat d'un arbitrage équitable entre les intérêts publics et ou privés. Merci.
Voilà, on va... On a encore un peu de temps. Je suis persuadé que les gens qui sont à la table ici ont des choses à ajouter sur les interventions de chacun d'entre eux. Mais d'abord, s'il y a des questions, nous allons les prendre. Au fond. Tout au fond, derrière vous. On ne va pas en prendre beaucoup, puisque je demanderai ensuite à ceux, aux débatteurs de...
Je viens juste de lire, d'acheter le livre, là. Vous parlez de la notion de compétence.
Est-ce non, que c'est... on vous entend pas bien. Levez-vous et...
Non. La compétence, Monsieur Hirsch, dans son livre, parle de la notion de compétence. Est-ce que ce serait quand même pas ça l'essentiel, quitte à ce qu'un député continue à travailler le lundi et le vendredi dans son cabinet d'affaires ou son cabinet médical ou son service hospitalier, puisqu'il y a tellement de médecins députés, y compris des cardiologues. Et est-ce que vous voulez dire que quelqu'un qui est trop riche avant de commencer, qui a un patrimoine comme les nobles ici en face, un patrimoine immobilier par exemple extrême, qui touche beaucoup de loyers, est-ce que c'est pire que d'avoir des actions dans une société ? Je comprends pas le... Certains veulent plafonner. Pourquoi est-ce qu'il faudrait plafonner les revenus? Quelqu'un qui a un gros patrimoine, à ce moment-là, vous plafonnez quoi? Il va tirer des ressources de ses biens, de ses terres. Et quelqu'un d'autre qui refuse d'être un possesseur ou un possédant comme certains communistes, où est la limite entre la compétence, les revenus et l'efficacité? Enfin, vous voyez, un peu tout est mêlé.
Bon, rapidement, Marcin Hirsch. Allez-y.
Oui. Il m'arrive parfois de mal écrire et donc du coup d'être mal lu et par vous et on l'a vérifié aussi avec mon voisin de droite. Le raisonnement que j'ai conduit est le suivant, de dire que dans certaines activités professionnelles de parlementaires comme ça peut être d'autres professions, il peut y avoir des activités professionnelles qui peuvent créer un lien de dépendance. On l'a vu dans le passé. Vous vous rappelez quand il y avait ces problèmes de conseils avec l'UIMM, etc., et d'amendements déposés. C'est pas moi qui les ai inventés, ces histoires-là. Donc il peut y avoir des liens de dépendance. Comment dénouer ces liens de dépendance? Alors, j'aborde les différentes possibilités. Il y a une première possibilité qui est extrême, qui est assez dure, qui est d'interdire toute activité professionnelle. Dans mon livre, je dis que je n'y suis pas favorable. Je dis que je n'y suis pas favorable. Je pense qu'il vaut mieux effectivement encadrer les choses pour essayer de trouver une bonne conciliation. Alors, quel type de conciliation possible ? Ce que je suggère, c'est qu'il y ait, je prends donc l'exemple qui se pose souvent du conseil qui peut être donné à des activités d'avocat ou de conseil qui ont beaucoup fleuri. Je propose de faire un distinguo entre la manière dont on peut être avocat pour différentes causes en matière civile et avocat pour des grandes entreprises qui peuvent avoir des intérêts à faire passer des amendements. Et donc on pourrait faire la distinction de ces deux choses-là. Et je dis, si on distingue ces deux choses-là, là encore, il y a deux possibilités, dis-je dans ce livre. Il y a une première possibilité qui serait d'interdire celle-là, ou la deuxième, c'est d'obliger à les déclarer pour faire en sorte que, une fois qu'elles sont déclarées, on n'a pas le droit, c'est le modèle canadien d'ailleurs, d'interférer dans aucun texte dans cette matière. Exemple que je donne, je dis par exemple un avocat qui dirait « je suis spécialisé dans les affaires audiovisuelles, voilà, tous mes clients sont dans l'audiovisuel », c'est déclaré, il continue, mais il ne prend jamais part au débat sur les lois audiovisuelles. Voilà ce genre de choses. Si ça existait, ça ne me choquerait pas. Et puis je dis, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin en étant plus restrictifs là-dessus, je dis que plutôt que d'aller dans une situation dans laquelle on interdirait toute activité professionnelle, mieux vaut les encadrer, et en les encadrant, on pourrait aller à imaginer pour conjuguer le fait qu'effectivement, des élus doivent consacrer du temps à leur mandat, mais peuvent peut-être avoir une activité professionnelle à côté, d'avoir un critère qui pourrait être le critère de dire, pour justifier que son activité principale est bien son activité d'élu pendant ce mandat, d'avoir une sorte de rapport entre le montant de l'indemnité et le montant qu'on tire de son indemnité, de son activité professionnelle, pour ne pas en faire trop dépendant. Et je dis que tout ça est tout à fait discutable. C'est pour ça que je pense que sur ce sujet-là, mon principal désaccord avec Philippe Houillon, c'est que je pense que sur ce sujet-là, il n'y a pas qu'une seule vérité. Et je ne pense pas qu'il faille taxer celles et ceux qui pensent qu'il faille aller plus loin d'intégristes. Je ne pense pas qu'il faille faire de dérision sur ce sujet-là. Par exemple, la règle des 150 euros, ce n'est pas pour regarder l'addition, pour savoir si c'est café inclus ou pas. C'est parce qu'il y a un certain nombre de gens, on s'en aperçoit, qui n'ont plus l'ordre de grandeur. Et que par conséquent, de pouvoir donner un ordre de grandeur, de dire, ben voilà, le fait d'accepter... Mais c'est ce que vous avez fait vous-même quand vous dites, j'ai pris les trois bouteilles de vin, c'est parce que vous avez estimé qu'elles ne valaient pas plus de 150 euros, j'imagine. Et si vous avez offert une magnifique lithographie, probablement vous l'auriez retourné parce que les principes que vous avez dictés sont ceux-là. Donc il y a des gens qui n'ont pas cette boussole comme vous, vous l'avez. Et pour cela, c'est pas mal de leur donner un ordre de grandeur. Et la meilleure façon de chiffrer les ordres de grandeur, parce qu'il y a des gens qui apprécient les grands crus et d'autres qui préfèrent les cigares et les troisièmes qui préfèrent les œuvres d'art, c'est de la chiffrer en euros. Donc c'est pas du tout pour faire de l'intégrisme au centime près, c'est pour donner des ordres de grandeur. Donc je crois vraiment que c'est une matière sérieuse. Effectivement, il peut y avoir une divergence entre vous et moi sur le... quoi. La divergence, elle n'est pas dans les modalités, elle doit être... Est-ce qu'on estime qu'il y a effectivement un climat général qui fait que la manière dont se sont rapprochés les secteurs privés et les secteurs publics rendent l'exercice d'un mandat public de fonctionnaires comme de parlementaires, comme de grands élus plus vulnérable à des questions de conflit d'intérêts que dans un autre contexte, oui ou non? Si la réponse est oui, je pense que ça appelle des solutions, mais je suis tout à fait prêt, sans caricaturer d'autres positions, à trouver qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes.
Et Catherine Labrousse, je veux dire un mot. On prendra une autre question après. Hein.
Puisqu'on parle de la profession d'avocat, j'ai lu récemment la question, vous savez, c'est des problèmes très, très concrets, mais décisifs. La question se pose, c'est de l'organisation d'une... L'idée a été lancée d'une l'organisation d'une grande profession juridique qui assimilerait en définitive toutes les fonctions qui aujourd'hui sont distinctes, et heureusement qu'elles sont distinctes d'ailleurs, de notaire, d'huissier, d'avocat, de conseiller, d'expert comptable, etc., etc., au profit, sur un modèle américain qui n'est à mon avis pas tout à fait enviable, du grand lawyer qui... ne ferait plus de distinction. Bon, je passe là-dessus. Mais le problème, c'est que l'indistinction, elle vient autrement. Elle vient de l'organisation des professions par l'intermédiaire de la création des sociétés. Des sociétés civiles d'avocats, dont un certain nombre de sociétés, il y a beaucoup de statuts qui ont été élaborés, mais je pense que monsieur le député doit le savoir mieux que moi, mais il y a notamment un type de société relativement nouvelle, qui est assez proche d'une société commerciale. Bon. Et la question se pose de savoir si dans le capital de cette société peuvent entrer des fonds qui viennent de personnes qui ne sont pas des avocats. Alors, on a l'air de dire non, parce qu'il y a un risque de création de conflits d'intérêts si on ouvre les sociétés d'avocats ou de conseil juridique au sens large, à des capitaux qui sont des capitaux dont on ne contrôlera, on ne pourra pas contrôler l'origine et qui pourraient de cette manière faire glisser progressivement la possession, qui pourraient altérer, voire même remettre en question l'indépendance fondamentale de l'avocat dans l'exercice de ses fonctions. Donc, vous voyez que ce sont des questions très techniques en définitive, mais assez importantes parce qu'il faut légiférer sur ce point particulier. Par ailleurs, il y a une autre question où je me suis posé la question de façon, mais dans un terrain qui n'est pas celui de ma compétence, qui relèverait plutôt du droit public, c'est la distinction des activités politiques et des activités administratives. Je suis assez frappée, par exemple, mais la question avait été dénoncée il y a assez longtemps par un rapport de M. Racine, je crois, il y a une trentaine d'années, sur le caractère pléthorique des cabinets ministériels, qui avait pour effet de décrédibiliser, déresponsabiliser et faire perdre la substance de la fonction des grands directeurs d'administration centrale. Et ça, c'est une pratique. Et est-ce qu'il ne faudrait pas limiter le nombre des conseillers personnels, des ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, membres de leur cabinet? On voit quelquefois dans la liste des membres du cabinet un nombre mais hallucinant de personnes. Moi, j'ai connu un premier ministre qui avait 7 conseillers techniques, point final. Il travaillait beaucoup, mais au moins, il n'y avait pas, les directeurs d'administration centrale n'étaient pas dépossédés de leurs responsabilités.
Philippe Houillon, vous voulez dire quelque chose ?
Deux, trois choses pour compléter. D'abord, sur l'aspect spécifique de la profession d'avocat, ce que j'ai entendu correspond à une vue très parisienne des choses. C'est une vue parisienne, ah ben, oui, élitiste, mais, parce que ça ne se passe pas comme
c'est
ça.
C'est la concurrence. Hein.
Moi, je suis, depuis l'âge de 21 ans, je suis avocat, pas loin d'ici, en grande couronne, comme c'est la mode, c'était la province avant. Je ne peux pas dire, parce que je suis généraliste, je ne peux pas dire que je vais seulement exercer dans le domaine de l'audiovisuel. Par exemple, je n'ai pas une affaire, pas une là-dedans. Il y a des incompatibilités qui sont prévues par les textes, par les textes du code électoral. On peut retravailler cela, pourquoi pas, moi j'y suis pas opposé. On peut retravailler ça pour adapter si c'est nécessaire, mais de grâce, pas d'usine à gaz. Par ailleurs, les avocats, oui, ont un secret professionnel qui est l'essence même de leur métier. Par conséquent, il ne faut évidemment pas transiger avec ça. La deuxième chose qui n'a rien à voir, si M. Michaud m'y autorise, que je voudrais dire, c'est peut-être la méconnaissance quand j'entends parler des groupes de pression, des lobbies, etc. Bien sûr que tout ça existe, bien sûr. Quand j'entends qu'on soupçonne peut-être que les députés sont payés par tel ou tel, peut-être que statistiquement c'est arrivé, mais il faut savoir comment se fabrique une loi et comment sont adoptés des amendements. Quand on vit ça de l'intérieur, et M. Hirsch lui le sait, quand on vit ça de l'intérieur, on sait que c'est quasiment, je ne peux pas dire que c'est pas possible, ça peut arriver bien entendu, mais enfin c'est quand même très très difficile, parce qu'il y a un tas de choses, il y a un tas de procédures, il y a ce qu'on appelle aussi le fait majoritaire, c'est-à-dire que le gouvernement propose un texte, c'est le groupe parlementaire qui l'étudie, ensuite c'est une commission, ça voudrait dire que non seulement il faudrait qu'un député porte un amendement qui serait contraire à l'intérêt général parce qu'il serait payé par tel ou tel lobby, ou en tout cas qu'il aurait des intérêts avec tel ou tel lobby, mais qu'en plus il parvienne à convaincre ses collègues et que ses collègues parviennent à convaincre le gouvernement. Juste, ça se passe pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas faire des progrès, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais arrêtons les grandes théories. Concrètement, sur le terrain, ça peut exister. Si ça existe, ça doit être... on doit trouver des solutions, mais globalement, ça se passe quand même assez peu comme ça.
Olivier Baume.
D'abord une remarque, il y a 15 ans je crois, Yves Mini a écrit un très bon livre que je recommande à tout le monde, s'appelle La corruption de la République, où il posait très nettement ce problème du conflit d'intérêts.
Qui on n'a pas entendu?
Yves Mini.
Oui.
Donc Yves Meignet avait vraiment fait un livre qui s'appelle La corruption dans la République, où il posait, dans tous les chapitres qu'il avait fait, un diagnostic très solide sur l'absence de notion de conflit d'intérêts en France. Donc le problème, il n'est pas du tout nouveau. Donc il est bon que ce problème surgisse, et je pense qu'on peut rendre ici hommage à M. Hirsch, parce qu'il soulève un vrai problème. Je pense que c'est un vrai problème. Alors, je voudrais faire juste deux questions. La première question, c'est à M. Houillon, c'est est-ce que la solution du déontologue, est-ce que ce n'est pas un moyen quand même d'éviter le problème d'élargir les incompatibilités? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit interpréter cette création du déontologue? Je ne suis pas très convaincu du caractère très pratique de cette solution. J'ai peur que le déontologue enterre le problème plus qu'il ne le résolve. Mais c'est un soupçon, mais ce n'est pas une conviction. Et la deuxième question s'adresse notamment à Madame le professeur Labrousse-Rioux, sur la question des avocats. Comment se fait-il que les avocats, moi je suis tout à fait d'accord qu'on puisse être avocat et continuer à exercer son métier d'avocat, comme vous, Monsieur Houillon, vous avez été élu, vous continuez à être avocat, ça ne me choque pas du tout. Ce qui me choque, c'est quelqu'un qui est député ou sénateur, qui n'a jamais été avocat, n'a jamais fait études de droit, devient avocat. Et pourquoi est-ce qu'il devient avocat? Parce qu'il va monnayer son agenda, son carnet d'adresses. Et comment se fait-il que l'ordre des avocats laisse passer ce genre de choses? C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas uniquement les parlementaires. Et ma troisième remarque, c'est que je trouve que le vrai problème, ce n'est pas vraiment la question des parlementaires, le vrai conflit d'intérêts, à mon avis, Martin Hirsch l'a dit, c'est au niveau de l'administration, là où le pouvoir décide de choses très importantes, c'est plutôt là qu'à l'Assemblée ou au Sénat que se pose, à mon avis, de façon très cruciale, pour ne pas dire plus haut, ministère, Premier ministre, voire Président de la République, pour certains cas, notamment des lois récentes, où, à mon avis, le conflit d'intérêts est manifeste.
Oui, vous posez la question de savoir si le déontologue ne va pas enterrer la réflexion sur l'extension des incompatibilités. Je ne suis pas sûr que ce soit de même nature. Comme je viens de le dire à l'instant même, si on doit revoir les textes concernant les incompatibilités, pourquoi pas ? Puisque ces textes remontent déjà un certain temps, qu'il faudrait sans doute les adapter, et qu'intellectuellement, j'ai aucun obstacle à cela. Je dirais simplement, par contre, que ce n'est pas de même nature que la déontologie. Les incompatibilités, c'est ce qui est interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat possible. Le déontologue, c'est l'aide l'adoption d'un comportement. Donc un comportement qui, au départ, n'est pas interdit. Ce n'est pas un comportement interdit, mais c'est un comportement ou une situation qui peut être éventuellement porteuse de difficultés ultérieures. Donc quand il y a question, donc ce n'est pas interdit, ce n'est pas la même chose. Quand il y a question, à ce moment-là, les personnes en charge de la déontologie vont appliquer les règles inscrites, peut-être de manière insuffisante selon certains par rapport à ce qu'a fait le Sénat, inscrites dans le code, et puis dire quel est le bon comportement. Et c'est un petit peu comme dans beaucoup d'autres matières. À partir du moment où le déontologue aura dit dans telle situation précise qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, il faut agir de telle manière, si l'intéressé ne respecte pas les choses, d'abord il y a quelques procédures qui sont prévues déjà, mais par ailleurs, forcément, il sera au banc, si je puis dire, en parlant de l'Assemblée, et il y aura une difficulté. Voilà, mais Donc moi je ne suis pas du tout hostile à ça, je dis simplement j'entends et puis je vois écrit dans les textes qu'on va aller, et on peut faire ça parce que je comprends cette réflexion, mais on peut aller vers les assistants parlementaires, enfin bon je veux dire, on va être dans une société d'investigation totale, il faut savoir aussi que l'Assemblée ça doit être la diversité des professions, de tout ça, et qu'il ne faut pas non plus décourager les gens qui veulent bien faire ce mandat qui n'est pas toujours si facile.
Moustapha Mekki.
Je voudrais juste souligner une petite chose. Revenir sur la raison d'être justement du débat, d'abord débat public et ensuite débat politique sur la notion de conflit d'intérêts. Quand on regarde la lettre qui a été écrite par le président Nicolas Sarkozy, quand on regarde les introductions, les préambules des différents rapports de la Commission Sauvé ou des rapports du Sénat, on revient en permanence sur cette volonté de restaurer la confiance des citoyens dans leurs élus, dans l'activité publique, et que ce soit des élus ou l'administration en général. Et il ne faut pas oublier cet objectif principal et qui permet d'expliquer pourquoi des mesures telles que les incompatibilités répondent à cette attente. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir si l'élu est quelqu'un d'honnête ou de malhonnête, on n'en doute pas une seule seconde. On part du principe qu'il est honnête. Simplement, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas simplement un cas d'impartialité réelle. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait même une apparence d'impartialité. Parce qu'il s'agit, cette loi, il y a une fonction symbolique importante, d'envoyer un message aux citoyens en leur disant, écoutez, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et on va essayer de faire en sorte de rendre les choses plus transparentes, essayer de supprimer les cas qui vous paraissent douteux, même s'ils ne le sont pas en réalité. Et je pense qu'il faut revenir justement à cet objectif premier de ces différents débats et des propositions qui sont faites, c'est-à-dire restaurer la confiance des citoyens dans leur État, dans l'administration et dans leurs élus.
Eh bien, je crois qu'on va s'en tenir là parce que ça fait une excellente conclusion. Voilà, merci.